vécu, on peut lire, dans un petit village de France. Le chien Durand, mort pour la France. Les enfants Durand, veuves de guerre.
Radio G. 101.5 FM.
De l'emmental sur les chroniques de Clic-Clac-Topette. Bonjour à tous et bienvenue dans cette presque dernière chronique de la saison pour Clic-Clac-Topette, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire en Anjou à deux pas de chez vous. Je dis la presque dernière car dans deux semaines, il y aura une émission spéciale avec invités et auditeurs qui s'affronteront dans un quiz terrible, digne des plus grandes joutes du Moyen-Âge, pour tenter de gagner un magnifique t-shirt avec écrit « Topette » en gros dessus. Contactez-moi sur les réseaux à Clic-Clac-Topette si vous souhaitez participer. Je profite donc de cette chronique pour faire le point sur la saison et revenir sur quelques sujets diffusés pendant l'année en vous dévoilant les pourquoi du comment ils ont été choisis, traités et réalisés. C'est donc un programme palpitant qui vous attend. Alors, ne quittez pas et restez jusqu'au bout. Bonne écoute! Eh bien les amis, on va tout simplement commencer par le début, la roche de Mur. Le 26 juillet 1793, 6000 Vendéens coincent environ 800 soldats républicains contre la roche de Mur, ce qui contraint ces soldats républicains à sauter dans le vide pour échapper au massacre. Pourquoi les royalistes vendéens sont venus se battre à la roche de Mur? Eh bien voilà ce qu'on va vous expliquer. La guerre de Vendée a commencé courant mars 1793 du côté de Saint-Florent-le-Vieil. L'épicentre de cette insurrection, qui va tenir en alerte le pays pendant plusieurs années, se situe à Cholet, donc dans les Mauges. Le terme de Vendée fait référence à l'ensemble du territoire insurgé du sud de la Loire, et non pas qu'au département administratif. La France vient de guillotiner son roi. Et les finances sont au plus bas. Lorsque la Convention nationale, l'ancêtre de l'Assemblée nationale, appelle les jeunes gens des Mauges à se battre aux frontières pour défendre cette République, ceux-ci se révoltent et se retournent contre les gardes nationales qui sont venus opérer au tirage au sort pour choisir les volontaires, qui du coup n'étaient pas trop volontaires. L'émeute tourne au conflit civil et une armée se constitue. L'armée royale. Alors que ces royalistes volent de victoire en victoire sur les soldats de la République, le généralissime vendéen, Catelineau, du Pain aux Mauges, meurt après la bataille de Nantes, un 14 juillet. Et ça, ça ne s'invente pas. Quel est le rapport entre cet événement et la roche de Mur? On y vient. Quand Catelineau meurt, un nouveau généralissime prend la place, Maurice Delby. Il doit maintenant gérer une troupe de soldats qui a le moral au plus bas. Donc, il décide de réorganiser un peu l'armée pour redispatcher les forces et se donner de nouveaux objectifs en espérant que la victoire soit au rendez-vous afin de redonner un élan vainqueur. Parmi les objectifs, il y a le choix de reprendre les grandes villes sur la Loire, comme Angers, qui n'est pas sur la Loire, mais à peu près. C'est donc ainsi que le 26 juillet 1793, les 6000 Vendéens partent à l'assaut de la roche de Mur, qu'un poste avancé de 800 soldats parisiens ne parvient pas du tout à protéger. La plupart des républicains s'enfuient en sautant du haut du promontoire rocheux et traversent la Loire à la nage pour retrouver Angers, ou même retourner directement à Paris. Cette chronique est tout simplement la première de la saison, et même la première de toutes les chroniques de Clic-Clac-Topette. Pour moi, l'idée était dès le début de rapprocher les Angevins avec leur propre histoire. Au fur et à mesure de mes découvertes, je trouvais incroyable de constater que la grande histoire était souvent à quelques pas de chez nous, et qu'on ne faisait que très rarement le lien. En racontant l'histoire aux Angevins, je ne voulais pas faire de l'histoire château à la Stéphane Bern, ni être trop magistral. Je vois l'histoire comme une histoire. Et un peu comme une chanson, ce qui paraît divertissant est souvent le meilleur outil pour être instruisant. C'est ainsi qu'est né le petit personnage de Clic-Clac Topette. Raconter l'histoire sans paraître la raconter. Sujet suivant, la famille Lascaz en Anjou. Sur la route, entre Chalonne et Rochefort-sur-Loire, il y a une chapelle qui s'accroche à la corniche angevine et qui entretient le souvenir d'un Emmanuel de Lascaz. Un nom qui est directement associé à l'empereur Napoléon. Mais qui sont les Lascaz de Chalonne ? Emmanuel de Lascaz n'est autre que l'homme qui a accompagné Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène et qui a rédigé ses mémoires. Le seul et unique document qui témoigne de la vie de l'empereur par lui-même. C'est d'ailleurs Emmanuel de Lascaz qui a soumis l'idée à Bonaparte de se rendre aux Anglais, en pensant que ceci lui accorderait une situation sûrement beaucoup plus favorable que l'horrible fin de vie qui l'a attendue sur le rocher maudit. Mais la chapelle qui borde la corniche angevine fait référence au fils d'Emmanuel de Lascaz qui s'appelait Emmanuel Ponce de Lascaz et qui a aussi été présent avec son père pendant l'exil de l'empereur. C'est d'ailleurs ce jeune garçon qui a rédigé le texte des mémoires de Sainte-Hélène. Si le nom de cet homme, né en 1800 et mort en 1854, continue de scintiller au-dessus de la vallée de la Loire et du Louette, c'est parce qu'il a marqué les esprits de son temps, d'une part en défiant l'ancien geôlier de Napoléon, qui lui avait fait des petites offenses quand ils étaient sur l'île de Sainte-Hélène ensemble, mais aussi et surtout parce que Emmanuel Ponce de Lascaz a réinvesti intelligemment l'argent de son père, dû notamment aux ventes des mémoires de l'empereur, dans l'exploitation minière de charbon sur l'île de Chalonne. Oui, le jeune garçon présent aux côtés de Bonaparte dans les derniers instants de sa vie et que, lui-même appelé parfois « fils », a mêlé son destin avec Chalonne-sur-Loire. Quel est le rapport avec la chapelle dans tout ça ? Eh bien, à sa mort, en 1854, juste après la fusion de son entreprise avec deux autres sociétés, les ouvriers de la mine ont tenu à ériger cette chapelle pour honorer sa mémoire et marquer leur deuil. Et surtout son frère, Barthélemy. D'ailleurs, Lascaz se retrouve aussi dans une rue de Chalonne, tout près de la mairie, en référence à ce frère, Barthélemy de Lascaz. Parce que c'est lui qui va reprendre la direction de l'exploitation minière et s'installer une bonne dizaine d'années à la mairie de Chalonne et au conseil général de Maine-et-Loire. Il va amorcer l'ensemble des grandes transformations de la commune, avec l'arrivée du chemin de fer ou la construction des quais, par exemple. L'apparence qu'on connaît de la petite ville aujourd'hui et de la corniche doit beaucoup à ce Barthélemy de Lascaz, frère d'Emmanuel Ponce de Lascaz, fils d'Emmanuel de Lascaz, le rédacteur des mémoires de Sainte-Hélène, de Napoléon. Pouf ! J'aime beaucoup cette histoire, parce que Napoléon, c'est parmi les derniers sujets qui m'ont tenu en haleine. J'ai vécu à Chalonne, et pendant très longtemps, je suis passé devant cette chapelle. Alors, quand le lien a été fait entre Napoléon et la corniche angevine, je me suis fait un devoir d'en parler. D'ailleurs, dans la chronique, Clic-Clac fait du géocaching et se retrouve ainsi dans le cimetière des mineurs qui est derrière la chapelle. J'ai moi-même découvert ça en faisant du géocaching un soir de pleine lune, à minuit, dans le cimetière. Et donc le dernier sujet que je choisis pour clôturer ce petit best-of des chroniques, Gilles Doré, Barbe Bleue. Le château de Chantossé est souvent appelé le château de Barbe Bleue. Pourtant, c'est là que Gilles de Rais est né, l'un des seigneurs les plus puissants de son temps, ayant même accompagné Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans, et qui n'avait pas la Barbe Bleue. Mais alors, pourquoi Gilles de Rais n'est pas Barbe Bleue ? L'histoire de Barbe Bleue est issu d'une légende orale qu'a fixée en 1697 Charles Perrault dans ses contes. Le récit fait référence à un homme, tueur et mangeur, je crois, de femmes, et veut avant tout, comme la plupart des histoires pour enfants, avertir sur les dangers que peuvent courir les jeunes filles en se retrouvant avec des inconnus. C'est comme le petit chaperon rouge et le grand méchant loup qui prévient les femmes des risques de viol en se promenant seul. Gilles de Rais, lui, était un puissant seigneur des Marches de Bretagne, cette frontière entre le duché breton et le royaume de France, et il est né vers 1405, oui parce qu'on ne sait pas exactement, au château de Chantossé-sur-Loire. Et il a connu une brillante carrière militaire en participant donc à la guerre de Cent Ans avec Jeanne d'Arc et le roi Charles VII. Il finira même maréchal de France. Attention ! Son lien avec la légende de Barbe Bleue doit surtout au 19e siècle qui a fait de lui la figure type du prédateur sexuel et du serial killer par la psychanalyse naissante. Car il a été condamné à mort en 1440 pour avoir enlevé, violé et tué entre 140 et 800 enfants pendant presque 10 ans. Mais il n'a pas tué de femme, comme dans le conte de Barbe Bleue. Premier point. D'ailleurs, il faut dire qu'en 1992, un procès de révision au Sénat a ressorti les archives du procès de Gilles de Rais de 1440 pour rejuger cet homme, mort 5 siècles plus tôt. Et là, surprise. Ces hauts magistrats, avec les mêmes éléments de dossier, en ont conclu que le dit Barbe Bleue était innocent. Tout du moins, que rien dans le dossier du procès ne permettait fermement de le condamner. Bien au contraire. La plupart des éléments montrent que cette affaire aurait pu être manipulée par l'Église et le duc de Bretagne, Jean V, pour faire tomber Gilles de Rais, car un peu trop puissant et surtout possédant des terres à des endroits hautement stratégiques. À une époque où la Bretagne était autonome et vacillait entre Royaume de France et Royaume d'Angleterre. Personnellement, je ne sais pas si Gilles de Rais est innocent ou pas, les recherches éveillent le doute, malgré tout. Ce qui est certain, c'est que la justice du XXIe siècle, la nôtre, connaît parfois quelques incroyables difficultés à établir la culpabilité d'un individu. Voilà pourquoi en France, il y a la présomption d'innocence d'ailleurs. Et il serait très prétentieux de prétendre que l'on peut affirmer avec certitude qu'un homme ayant vécu il y a presque 6 siècles soit innocent ou pas. Mais, en même temps, des affaires récentes montrent aussi que la justice s'est parfois trompée. Persuadée d'avoir le coupable entre les mains, elle s'est arrangée subjectivement pour le faire condamner. Gilles de Rais, innocent ou pas, reste un mastodonte de l'histoire locale et française. Mérite-t-il d'être pris en compte ? Peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste ? Le débat reste ouvert. La Roche de Mur, le pont de Prunier, la famille de Lascaz, Gilles de Rais, autant de sujets passionnants qui continuent de marquer visiblement le paysage angevin. Mais j'aurais aussi aimé parler de la catastrophe de la basse chaîne, de l'incendie du palais des marchands ou l'attaque de la mairie de Verne d'Anjou par de jeunes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant d'histoires qui traînent en filigrane dans l'imaginaire collectif des Angevins. En commençant la réalisation des chroniques, j'étais loin d'imaginer que l'Anjou et le Maine-et-Loire étaient aussi fournis en sujets historiques, tous plus passionnants les uns que les autres. Je suis également heureux de constater l'engouement que les auditeurs ont pour ce programme. Et je me félicite chaque jour de répondre modestement à un besoin bien réel de la part des Angevins de connaître, d'explorer et de découvrir leur histoire. C'est donc fini pour ce mini best-of des chroniques de la saison 2019-2020. Merci à tous ceux qui suivent et soutiennent les chroniques de Clic-Clac-Topette. Partagez, aimez, proposez, ce programme est avant tout le vôtre. Je vous retrouve lundi dans 2 semaines pour une spéciale de 30 minutes avec le quiz des auditeurs qui vont tenter de gagner un superbe t-shirt angevin. Portez-vous bien et topette!
just wanna tell you. 101.5 FM.
For us all, it is a new way, and we're gonna take it 'cause we love it, don't you know? Is this the dose you've been dreaming of? A revelation from a gun. Doesn't matter, overtaken mine was yours now, overthrown.
Through the wind, it's time for me to touch another skin.